2 heures à Paris, 1 heure en temps universel.
Antoine Gallen.
À la une, les conclusions du sommet en Tanzanie au sujet de la République démocratique du Congo. Un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC a été demandé par les chefs d'État de l'EAC et de la SADC. Dans ce journal également, le Premier ministre hongrois Viktor Orban veut s'attaquer aux médias indépendants et les ONG. Il lance une offensive pour réduire leur financement provenant de l'étranger. En Allemagne, plus de 250 000 personnes s'opposent à l'extrême droite. Ils ont manifesté à Munich à 2 semaines des législatives. Et puis toujours en Outre-Rhin, l'Allemagne a dégagé un excédent commercial record avec les États-Unis l'an dernier, ce qui ne devrait pas plaire à Donald Trump, qui menace l'UE de nouveaux droits de douane. Un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC, c'est ce que demandent les chefs d'État de l'EAC et de la SADC. Les présidents des organisations régionales d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe étaient réunis aujourd'hui à Dar es Salaam en Tanzanie. Jusqu'ici, ces deux blocs régionaux menaient des médiations parallèles, mais l'issue de cette rencontre, elles, ont réussi à accorder leur violon. Gaël Lalex.
D'une seule voix, les deux blocs régionaux ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Dans un communiqué conjoint, ils demandent également le rapatriement des morts et des blessés, la réouverture des principales routes et de l'aéroport de Goma et des discussions directes entre Kinshasa et le M23 dans le cadre de ce processus. Enfin, d'ici 5 jours, les chefs d'état-major des pays membres des deux organisations devront se rencontrer afin d'établir un plan de sécurisation pour Goma. Selon une source proche de la présidence congolaise, cette étape implique nécessairement le retrait du M23 et de ses soutiens. Aucune condamnation, en revanche, du Rwanda pour son implication dans le conflit. C'est quand même une avancée, concède cette même source. On a répondu à certaines de nos demandes. L'objectif reste la désescalade de la violence et l'amélioration de la situation humanitaire. De son côté, la délégation rwandaise estime que ce sommet a répondu aux attentes de Kigali. Enfin, le communiqué annonce la fusion des processus de Nairobi et de Luanda. D'autres médiateurs pourraient être désignés, venus éventuellement d'autres régions du continent. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Au Proche-Orient, 3 nouveaux otages israéliens ont été libérés par le Hamas en échange de la libération de 183 prisonniers palestiniens. 5e échange prévu par l'accord de cessez-le-feu. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a envoyé des négociateurs au Qatar pour discuter de la trêve à Gaza. Pendant ce temps, en Cisjordanie, une ONG accuse Israël de raids délibérés contre des familles qui attendaient la libération de leurs proches dans le cadre d'un nouvel échange avec des otages à Gaza. Après plus de 2 ans d'intérim, le Liban a enfin un gouvernement. Il sera dirigé par le Premier ministre Nawaf Salam, qui souhaite un gouvernement de réformes et de salut. Des réformes, c'est ce qu'espère l'ambassade américaine qui a salué la formation de ce gouvernement. Le pays est marqué par une grave crise économique et une guerre dévastatrice entre Israël et le Hezbollah.
RFI, la radio du monde.
Direction la Hongrie. Après la fin de l'USAID aux États-Unis, Viktor Orban veut emboîter le pas de Donald Trump. L'agence de développement soutenait des médias indépendants de le monde entier et justement le Premier ministre hongrois veut museler le paysage médiatique de son pays. Il a annoncé une offensive contre les ONG et les médias indépendants qui reçoivent des fonds de pays étrangers. À Budapest, Florence Labruyère.
Encouragé par les purges mises en place par Donald Trump, Viktor Orban va encore plus loin que le président américain. À la radio hongroise, le Premier ministre promet d'éliminer les médias indépendants et les ONG, tous des agents de l'étranger, manipulés par le philanthrope américain George Soros. Pour Viktor Orban, une seule solution.
Il faut les balayer. Le président américain a montré la voie. C'est le moment ou jamais d'éliminer le réseau Soros et tous ses réseaux internationaux. Nous allons légalement les empêcher de fonctionner.
Tomasz Bodoki est rédacteur en chef du média indépendant Atlatso, un média réputé pour ses enquêtes sur la corruption du pouvoir. 30% du budget du journal vient de l'aide américaine. Même sans cette aide, le média pourrait survivre, mais il y a les menaces d'Orban et il faut les prendre au sérieux, selon ce journaliste.
J'en ai bien peur. Il va faire tout ce qu'il peut pour faire fermer ces organisations. Aujourd'hui, les médias indépendants et les ONG ont tout à fait le droit de recevoir des dons de l'étranger. Donc il faudrait que le pouvoir vote une loi pour rendre tout cela illégal.
Atlazo est aussi financé par des fonds européens. En théorie, un État membre ne peut pas interdire à un média de recevoir de l'argent de Bruxelles. Mais Viktor Orban semble déterminé à trouver un moyen de faire taire les contre-pouvoirs. Florence Labruyère, Budapest, RFI.
L'élection de Donald Trump a galvanisé l'extrême droite européenne. Les Patriotes pour l'Europe, principal groupe d'extrême droite et troisième force du Parlement européen, ont réuni leur leader à Madrid. Le slogan est clair, « Make Europe great again ». La française Marine Le Pen s'est mise en scène aux côtés de ses alliés d'extrême droite tout en essayant de rester fidèle à sa stratégie de dédiabolisation. Raphaël Delvolvé.
Make Europe great again.
We make Europe great again.
Hacer Europa grande otra vez.
La plupart ont repris le slogan, mais pas elle. Depuis novembre dernier, Marine Le Pen affiche un enthousiasme mesuré à l'élection de Donald Trump.
Le résultat des élections américaines doit sonner le réveil du vieux continent. Il ne faut pas l'interpréter comme un appel à un alignement.
Prudence notable également dans les thèmes et le vocabulaire à la tribune, quand le Hongrois Orban, le Hollandais Wilders ou l'Italien Salvini défendent des valeurs sociétales conservatrices pour fondre le wokisme et invoquent la Reconquista pour contrer l'immigration, Marine Le Pen, elle, se limite à une charge contre l'Union européenne.
Ce n'est pas l'Europe qui a généré la puissance, mais les nations qui la composent. Et non une structure technocratique froide et castratrice.
Certes, elle accuse Bruxelles et sa politique migratoire, mais s'épanche davantage sur le Green Deal, ce pacte vert qui, selon elle, est la marque de l'impuissance européenne. Marine Le Pen donne sa vision du monde.
Aujourd'hui est en train de s'imposer un clivage. La puissance contre la décroissance.
Après 8 mois d'existence des patriotes européens, Marine Le Pen semble avoir décoré sa chambre à sa manière, dans ce qui ressemble, après ce week-end espagnol, plus à une grande colocation qu'une coalition. Raphaël Delvolvé, Madrid, RFI.
Et puis eux disent non à l'extrême droite. En Allemagne, plus de 250 000 personnes ont manifesté à Munich à 2 semaines des législatives. Une mobilisation déclenchée après le rapprochement du candidat conservateur de la CDU, Friedrich Merz, avec le parti d'extrême droite AfD, pour faire adopter une motion visant à bloquer tous les étrangers sans papier à la frontière. Depuis, la CDU répète qu'ils excluent tout gouvernement de coalition avec l'AfD, mais pas de quoi satisfaire les manifestants qui l'accusent de tendre la main à l'extrême droite. En France, 13 personnes liées à l'extrême droite justement seront jugées en juin pour des injures racistes visant la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura. Elle avait porté plainte après la vague de cyberharcèlement raciste en lien avec l'annonce de son éventuelle participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'actualité économique désormais, l'annonce risque de ne pas plaire à Donald Trump qui menace l'UE de nouveaux droits de douane. L'Allemagne a dégagé un excédent commercial record avec les États-Unis l'an dernier, 71 milliards de dollars, Altine Lazage.
Malgré la crise qui frappe son économie, l'Allemagne a encore accru le solde de sa balance commerciale avec les États-Unis. Les exportations allemandes ont ainsi augmenté de près de 4% sur un an. Les États-Unis sont même redevenus l'an dernier le premier partenaire commercial de l'Allemagne, une place qu'ils avaient perdue en 2016 au profit de la Chine. Ces chiffres ne font qu'augmenter le risque d'une réaction négative de la part de Donald Trump. Lors de sa campagne électorale, il avait déjà pointé l'excédent commercial de l'Allemagne. Ils ne prennent rien de nous, mais ils nous envoient leurs Mercedes, BMW, Volkswagen, des millions de ces voitures, dénonçait-il. Berlin, comme d'autres capitales européennes, est donc dans le viseur de l'administration Trump. Une hausse des droits de douane serait un nouveau choc pour l'économie allemande qui connaît une récession depuis 2 ans. Et pour 2025, la Banque fédérale n'est pas optimiste. Elle prévoit une très faible croissance du PIB de l'ordre de 0,2%.
Dans les Caraïbes, un séisme de magnitude 7,6 a été ressenti. Cela a provoqué une alerte au tsunami, notamment pour Cuba, la Jamaïque, le Mexique, le Costa Rica et Haïti. Le séisme s'est produit en plein cœur de la mer des Caraïbes. Emilia Pérez a remporté le film du meilleur film européen au Goya, l'équivalent espagnol des Oscars. Le film de Jacques Audiard en pleine polémique en raison d'anciens tweets jugés offensants et racistes de son actrice principale, Carla Sofia Gascon. Et puis du sport en rugby, terrible désillusion pour l'équipe de France dans le tournoi des Six Nations. Défaite dans les dernières minutes face à l'Angleterre, 25-26. Un sentiment de gâchis pour Antoine Dupont. Les rêves de Grand Chelem sont déjà envolés. Le 15 de France se déplacera en Italie le 23 février pour son prochain match. En football, le Real Madrid accroché par son rival l'Atlético malgré un but de Kylian Mbappé. Match nul 1-1. L'AC Milan s'impose 2-0 face à Empoli. Même score pour Rennes qui gagne face à l'AS Saint-Etienne. RFI, il est bientôt 2h10, 1h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal.